Mondial Sport, spécial Cannes, Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mondial Sport, version longue durant la Cannes, deuxième week-end où l'émission joue la prolongation pour mieux vous faire profiter de la grande fête du foot africain. Les dernières infos, les réactions et les à côté de la compétition avec tous nos envoyés spéciaux et les analyses du consultant que nos camarades de Radio Foot International nous ont gentiment prêté, Yoro Mangara. Bonsoir Yoro.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Avec vous, on décortiquera les temps forts de ces dernières 24 heures, à commencer par la qualification du Nigeria pour les huitièmes de finale. Le Soudan n'a pas pu faire grand-chose face au Super Eagles, vainqueur 3-1. L'Égypte l'a emporté il y a quelques instants 1-0, mais ça a été particulièrement compliqué. Le point dans un instant avec Christophe Jousset. Autre qualifié, le Maroc, venu à bout des communs hier. Les Sélacantes, encore un peu tendres, mais plus que jamais soutenus par leurs nombreux supporters en France et notamment à Marseille, où la communauté continue de suivre sa sélection avec passion et fierté, malgré les débuts difficiles. Pour le Sénégal et la Guinée, ce n'est pas encore fait. Les Lions de la Teranga, à la peine hier, lors de leur face-à-face avec un Sili national pourtant en reconstruction, aidé notamment par l'ex-international Pascal Feindouno. On s'intéressera aussi au programme de demain, le groupe F avec Tunisie et Mauritanie, deux adversaires revanchards après leur défaite inaugurale. Gros plan également sur la Gambie de Tom Saint-Fitz, le belge baroudeur autant que Tintin que Hugo Moissonnier est allé observer à l'entraînement. Également dans ce Mondial Sport, un reportage de Frédéric Suto sur les terres de Samuel Eto'o. Frédéric qui nous parlera évidemment aussi de la Côte d'Ivoire. Et puis on fera une petite infidélité quand même à la CAN pour la première ligue où Manchester City se rapproche de plus en plus du titre après sa victoire sur Chelsea 1-0. Allez, tous nos envoyés spéciaux au Cameroun sont prêts pour notre vaste tour d'horizon de cette CAN sur les terrains et en dehors. Les belles surprises, les déceptions, les polémiques, rien n'a manqué en presque une semaine de compétition. Deux matchs ont fait avancer le tournoi aujourd'hui, de rencontres du groupe D. Et à l'arrivée, un troisième qualifié pour les huitièmes de finale après le pays hôte et le Maroc, c'est le Nigeria. Mais auparavant, on va en venir au match qui vient de se terminer à Garoua et qui a suivi pour nous Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro et bonsoir à tous.
Ce match c'est Égypte-Guinée-Bissau, les pharaons qu'on savait forcément sous pression après s'être loupés en ouverture contre les Nigérians. Alors ils l'ont emporté 1-0, mais ils respirent, mais on peut dire qu'ils étaient un petit peu en apnée sur les dernières minutes.
Oui, ils l'ont échappé belle. Victoire 1-0 sur le but de Mohamed Salah, 69e minute. Mais ce qui reste, ce qui nous maintient sous tension encore quelques minutes après le coup de sifflet final, c'est ce fameux but refusé à la Guinée-Bissau, le but égalisateur à la 82e minute. Superbe but signé Mama Baldé, l'attaquant de Troyes, qui a réussi, après avoir été au duel avec le défenseur égyptien, à s'arracher à son marquage, à lui échapper, à effacer un deuxième défenseur égyptien et à délivrer une superbe frappe décroisée dans le petit filet opposé. L'un des plus beaux buts depuis le début du tournoi, sans doute. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'arbitre Pacifique Ndabiya Wenimana, pardon, l'arbitre burundais, a d'abord validé le but et puis, sans doute pressé par les Égyptiens qui se sont massés autour de lui, a finalement décidé d'aller voir la VAR, d'aller vérifier sur l'écran. Et là, eh bien, il a annulé ce but. Et ça va faire parler parce que le duel paraissait tout à fait régulier entre Mama Baldé et le défenseur. Et la A priori, la majorité pense qu'il n'y avait pas de raison de l'invalider, ce but.
Yoro, c'était votre avis, pareil, pas de faute sur cette action?
Il n'y a pas faute, il y a mille fois but parce qu'ils se sont tous les deux accrochés et puis l'autre a été plus puissant. Mama Baldé a montré de la puissance, après il a enchaîné avec des gestes techniques parfaits, enveloppé, il y avait but. Pour moi, il n'y avait pas faute.
Et donc forcément, ça aurait pu tout remettre en cause dans ce match parce qu'un partout, la situation n'était forcément pas la même. Les Égyptiens auraient encore un petit peu... Il serait resté crispé.
Moi, je pense que les Égyptiens ont joué 25 minutes dans ce match entre la 25e et la fin de la première période. Ils ont poussé et je pense que physiquement, après, ils ont pêché. Après, j'ai vu que ces Bissau-Guinéens étaient là en seconde partie. Ils ont essayé de jouer et bon, c'est péché de naïveté parce que souvent, quand on essaie de jouer, on se fait endormir par l'adversaire qui a beaucoup plus d'expérience. Et le but de Salah a un petit peu sonné cette équipe bissau-guinéenne. J'ai entendu dire que c'était leur premier but dans cette compétition. Non, en 2017, ils avaient déjà marqué un but. C'est Paqueti, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui avait égalisé face à la Gambie. Donc c'est une équipe qui a essayé de jouer. Malheureusement, ça n'a pas payé.
Mohamed Salah qui marque enfin. On sait qu'il a énormément de pression hein, depuis de longues années avec les Pharaons, parce qu'il est très attendu. Il n'a pas toujours été extrêmement toujours performant en sélection. Là, ça y est, ça peut lancer sa compétition.
De toute façon, il répond toujours présent avec la sélection. Sauf que Mohamed Salah n'est pas venu dans cette bonne période de l'Égypte. Il est seul. Déjà, il manque déjà de centimètres. Je crois que si on avait l'équipe de 2008, 2009, 2010, ils auraient dû déjà marquer deux buts, parce qu'avec Amr Zaki et un joueur comme Mido, ils ont beaucoup plus de centimètres. Et Omar, sur le côté droit, qui n'arrêtait pas de faire des centres durant 90 minutes, malheureusement, ils avaient moins de centimètres qu'il y a 10-15 ans, moins d'avant-centres. Il y a comme Moussala dans cette équipe. Le reste, c'est de bons joueurs, mais ce n'est pas de top players comme lui.
Alors en tout cas,
Christophe, juste ajouter quand même la déclaration. Il y a quelques instants de Mohamed Salah chez nos confrères de Canal+. Nous avons eu un peu de chance sur le but refusé. Ça veut dire qu'il pense comme tout le monde que le but n'aurait pas dû être refusé par la VAR. Il y a du mieux quand même par rapport à la première sortie de l'Égypte contre le Nigeria. Ils sont en progrès, y compris Mohamed Salah, parce que d'abord il a marqué et puis il était bien mieux sur le côté que dans l'axe. Et il faut aussi rappeler quand même que l'Égypte était au-dessus sur l'ensemble de la rencontre et que les Pharaons ont manqué de réussite. Ils ont touché trois fois le poteau. Dès la deuxième minute, Mossala a frappé sur le poteau. Il y en a une autre un peu plus tard à la 18e et encore une de Zizou à la 75e. Donc vous voyez, ça aurait pu être plié un peu plus, avec un peu plus de chance en faveur des Pharaons qui ont quand même conclu sur une victoire assez laborieuse.
Oui, victoire tout de même finalement logique compte tenu de la physionomie en tout cas de cette rencontre. Christophe, on revient donc maintenant sur le qualifié, lui, le réel qualifié de cette journée, le Nigeria, les Super Eagles qui n'ont pas eu beaucoup de mal finalement à s'imposer sur le Soudan, 3-1.
Oui, extrêmement appliqué les Super Eagles. Ils ont fait les choses rapidement. Ils ont mis les choses au point rapidement face au Soudan, toujours à Garoua. Troisième minute, c'est le but le plus rapide depuis le début du tournoi. C'est Chukwueze, l'attaquant de Villarreal, qui a ouvert la marque. Il y a eu aussi Awoni d'une tête. Alors là, pour le coup, vraiment très chanceuse, hein, presque involontaire la tête. Il a marqué son premier but en sélection. Tant mieux pour lui. C'était 2-0 à la mi-temps. Et puis, à la reprise, les Super Eagles d'Egouavonne ont démontré qu'ils restaient bien concentrés sur l'objectif, puisqu'il ne leur a fallu que 35 secondes pour marquer le troisième but, le but du 3-0 signé Moses Simon, le Nantais. Il y aura un pénalty pour les Soudanais à la 70e minute de jeu qui leur a permis, suite à une grosse faute de la Haina dans la défense, dans sa surface de réparation, qui a permis aux Soudanais de réduire l'écart. Pénalty de Walieldin Kidir, le joueur d'Al Hilal.
Et je vous propose d'entendre une réaction du Nigeria recueilli par notre confrère Marco Martins de la rédaction Lusophone. William Trostekong, le défenseur nigérian de Watford, c'était il y a quelques minutes.
Aujourd'hui, c'était un challenge différent du premier match où nous avions été très bons d'un bout à l'autre. Là, nous étions lents en première période, mais bien meilleurs en seconde. Mais bon, c'est toujours un bon signal envoyé, même si nous avons été moins performants. Nous avons quand même inscrit 3 buts et nous méritons donc de gagner ce match. 6 points, nous sommes heureux et qualifiés pour le tour suivant, même si nous voulons gagner le dernier match.
Yoro, le Nigeria, belle démonstration pour l'instant, 2 matchs de victoire.
Ils ont déjà bien commencé en battant l'Égypte. Aujourd'hui, ils ont eu la mainmise durant 90 minutes sur ces rencontres. Ils jouaient à leur rythme, ils accéléraient quand ils veulent, ils cassaient le rythme quand ils veulent. 3-0, c'est la seule équipe avec le Cameroun et qui, pour l'instant, domine ses adversaires et gagne, pas facilement, mais gagne avec la manière. C'est très bien. Ils ont déjà plus qu'un pied, ils sont déjà en 8e de finale dans cette compétition.
Merci Christophe, on vous retrouvera très prochainement pour parler sans doute du 3e match du Cameroun. On verra ça demain à Yaoundé, ce sera contre le Cap-Vert dans le but de sécuriser la première place de leur groupe après leur qualification, mais on aura largement le temps d'en reparler. Autre nation qui n'aura donc pas besoin d'attendre son 3e duel pour être sûr de poursuivre cette aventure, c'est le Maroc qui a dominé hier les Comores 2-0 dans le groupe C, dans l'autre stade de Yaoundé, le stade Amadou Ahidjo, sous les yeux notamment d'Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro, bonsoir à tous.
2e victoire en 2 matchs pour les joueurs de Vahid Dalilodzic. Des Lions de l'Atlas, jamais vraiment inquiétés par les Sélacantes.
Non, tout en maîtrise, les Marocains qui se sont appuyés sur leur point fort habituel, la défense, une défense solide. Romain Saïs et ses camarades n'ont concédé aucun tir cadré au Sélacanthe. Déjà face au Ghana, les Lions de l'Atlas avaient contrôlé la rencontre. Là, face aux Comoriens, ils ont été un peu aidés par le retour de Sofiane Amrabat, le milieu de terrain de la Fiorentina. Un patron, il a fait office de tour de contrôle, il a offert au passage des tacles défensifs qui ont montré sa détermination et celle des Marocains. Offensivement, c'est un petit peu plus paradoxal parce que s'ils n'ont marqué que deux fois les joueurs de Vahid Halilhodžić, ils auraient pu s'imposer bien plus largement grâce aux performances de Tariq Tissoudali et Salem Amala, les deux ailiers sortis des brasseries de la Jupiler League en Belgique. C'est eux, hein, même plus que Sofiane Boufal ou Youssef En-Nesyri, qui ont fait des différences. Salem Amala surtout, qui s'est offert un but et une passe décisive dans un match où, il faut le reconnaître, les Marocains sont aussi tombés sur un Ben Bouana qui a sorti le match de sa vie. Et comme beaucoup, Naïef Aguerd lui-même a buté sur le gardien comorien, mais la mission était accomplie, estimait le défenseur du Stade Rennais au micro de Nicolas Bamba.
Depuis qu'on est arrivé là, notre objectif c'était de gagner les matchs et rester premier. Aujourd'hui on verra, il y a encore un match contre le Gabon et on verra à la fin. Mais nous on a joué ce match, on a essayé de respecter ce que le coach nous a demandé. Et voilà, je suis très content, très fier de l'équipe. C'était pas facile, sans chercher les excuses, mais voilà, les conditions n'étaient pas faciles. Il y a un peu d'humidité, il y avait un peu de chaleur, mais bon, le plus important, c'est les trois points. Il faut continuer à travailler.
Un Maroc solide, qualifié, et des joueurs des Comores, Antoine, encore une fois, impuissants.
On l'a dit, hein, Christophe, aucun tir cadré pour les joueurs d'Amir Abdou. Les retours de Fouad Bachiro et Faïs Selemani en titulaire n'auront pas apporté au Sélacanthe les solutions offensives qui avaient déjà manqué contre le Gabon. Toujours pas de but marqué pour les Comoriens qui, s'ils ne sont pas encore éliminés à 100%, vont devoir réaliser un exploit majeur à Garoua face à un Ghana lui-même en danger, hein, dans ce groupe. La seule satisfaction finalement, c'est le titre d'homme du match reçu par le gardien Salim Ben Bouana. Il a cédé par deux fois le joueur d'Andoum en 5e division française. Mais sans lui, le score aurait pu être plus lourd. Ben Bouana qui a même arrêté un pénalty dans cette rencontre à la 83e minute. Et à l'issue du match, il était à la fois le plus déçu et le plus heureux des Comoriens. Déçu par cette nouvelle défaite, mais satisfait de recevoir le trophée d'homme du match. On va l'écouter, Ben Bouana.
C'est une première pour moi de sortir sous les ovations, surtout à l'extérieur. On kiffe ces moments, ça sera des moments inoubliables auxquels je pourrai raconter à ma famille et à mes enfants. Donc on m'a dit avant ce match, c'est de prendre du plaisir et de se régaler. Car c'est pas tout le temps qu'on joue une canne et j'espère que j'ai pu le faire comme il faut. Et voilà, tout simplement.
Ben Bouana et les Comoriens qui s'envoleront demain pour Garoua pour aller affronter le Ghana. Match de la dernière chance pour les deux équipes, Christophe.
Maroc séduisant, Euro, pour l'instant, sur ce début de canne.
Pas séduisant, mais très sérieux. Quand même, ils sont là, ils jouent les matchs l'un après l'autre. Ils n'essaient pas d'en faire trop parce qu'ils savent qu'ils sont venus avec quelques atouts offensifs de moins. Mais quand même, c'est une équipe sérieuse. Hier, ils auraient pu gagner beaucoup plus largement si En-Nesyri avait transformé son penalty, qui même dans la foulée a raté en face à Bouana. C'est une équipe sérieuse, solide, comme son entraîneur Vahid Halilhodžić. Il n'y aura pas beaucoup de superflu, mais ce sera très costaud jusqu'à la fin.
Alors du côté des Comores, bon, on imagine la situation est déjà très très compliquée. Mais on le rappelle, les Comores, ce sont les petits nouveaux de cette CAN, très suivis au pays, on l'imagine. Mais aussi à Marseille, considérée comme la cinquième île de l'archipel avec ses 80 000 Comoriens. On a déjà eu l'occasion de vous parler de cette communauté férue de foot. Je vous rappelle d'ailleurs le grand reportage de Martin Guez à écouter ou réécouter en podcast sur RFI.fr. Alors il n'allait évidemment pas louper le match d'hier, hein, ses supporters contre les Comores plutôt, dans le 3e arrondissement de la ville. Une fan zone a été improvisée en bas des bâtiments de la cité Félix Pia. Notre reporter Laure Lemay à Marseille est allé suivre la rencontre avec les habitants du quartier.
Allez les verts,
allez les verts, allez les verts, allez les verts.
Un drap blanc tendu à 2 mètres du sol sur le mur du bâtiment C14, un rétroprojecteur, une enceinte, le drapeau national sur le côté. Habitants de 7 à 77 ans se sont retrouvés au coup d'envoi.
Moi j'aurais pu le regarder chez moi, mais c'est bien d'être là avec tout le monde. Ça donne des frissons, ça réunit beaucoup de Comoriens. C'est nous ici, c'est nous les Comoriens.
On voulait installer ça pour nos familles, nos darons, et pour que tous les Comoriens voient le match. On n'a jamais été connus nulle part. C'est la première fois qu'on passe sur des chaînes comme ça. C'est la première fois qu'on joue une coupe comme ça. Lucien Pépin, c'est lui le fondateur de tout ça.
Moi, Mounir, c'est avec le connaître l'idée de vouloir diffuser le match à tout le quartier. pour montrer notre première aussi. Il était à Yaoundé le premier jour, c'était le feu.
Il y avait tout le monde, on achetait à boire, à manger pour tout le monde. C'était tout gratuit. Ah, il y avait de la vraie ambiance, hein, franchement.
Plus si c'est complet.
Il y avait tout le peuple comorien de tous les quartiers de Marseille. Et on a fait la première canne de notre pays ensemble. Hein.
L'initiative des jeunes du quartier a fait le tour des réseaux. Assad est venu exprès de Chambéry.
Je suis descendu simplement pour vivre la canne à Marseille. J'ai pris une semaine de vacances, au moins pour voir... Voilà les matchs ici à Marseille. Quand on n'a pas pu aller au Cameroun, voilà, mais à Marseille, tu te sens un peu à la maison. Ici, à la famille, à les amis, ben, on se sent un peu au Como. J'espère qu'ils vont gagner. Et ouais, qu'ils vont se qualifier encore, Inch'Allah. Aïe, 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 aïe.
Malgré une défense solide de l'équipe comorienne, leur premier match de poule s'est soldé par une défaite. 1-0 pour les Panthères du Gabon. Mais pour Nakib, il faut rester lucide. Et ce n'est pas une raison pour ne pas être fier.
On était déçus, c'est normal. C'était moyen, mais on voit que les joueurs ils mouillent le maillot. On voit qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Même si après c'est difficile. Mais ça va. Après, on n'est pas l'équipe de France, on n'est pas le Brésil, on n'est pas l'Algérie. On est l'une des plus petites nations de cette compétition. Et c'est un grand honneur hein, pour nous. Déjà de voir ce match contre le Maroc, que c'est pas un match amical, que c'est la CAN. Avec le temps, on va s'améliorer. Il y a de plus en plus de Comoriens qui jouent dans des centres de formation, qui jouent dans des bons clubs. L'évolution, ça sera avec l'implication de tous les Comoriens qui jouent au foot actuellement. En Ligue 1, à l'étranger, en Ligue 2. Parce que là, la vérité, on va avec les moyens du bord. Hein. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut quand même remercier, il faut quand même être fier de ceux qui sont là aujourd'hui. Ceux qui nous ont ramenés déjà là aujourd'hui. On est fiers, très fiers.
Voilà, je t'aime ! C'est bon ! Belle bonne note, c'est
bon ! À l'unanimité, les supporters marseillais comoriens reconnaissent les exploits du gardien de but Salim Ben Bouana. 7 arrêts au total, dont le pénalty de Youssef Nnesri à la 83e minute.
La Bousserine, exactement.
C'est pareil qu'ici, c'est les quartiers nord.
Il est formidable. Il est magnifique.
Il sort de la rue. Il a grandi avec rien du tout. Et là, il nous montre que même quand on n'a rien, on peut faire quelque chose.
Le match touche à sa fin. Plus vraiment d'espoir de voir s'envoler le ballon dans les cages marocaines.
Allez, le coup de sifflet final. Le Maroc a fait le travail. Succès 2-0. Face à la sélection des
Comores,
malgré un excellent Salim Ben Bouana dans le but
qu'il a mis. On a eu la chance aujourd'hui du Maroc. Le Maroc, ils nous ont mangé. Mais bon. Ça se voit que voilà, par rapport au premier match, là, on a bien joué. C'est la dernière chance, il y a un match qui reste. C'est pas fini, on a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Comoriano jusqu'à la mort, hein, on sera là.
C'est donc dans 3 jours que le Comore jouera contre le dernier adversaire de son groupe, le Ghana. Pour la cité Félix Piard, rendez-vous au même endroit pour la fan zone. Laure Lemay, Marseille, RFI.
Alors, avant d'arriver à ce match, on va continuer avec le groupe C de ce week-end, avec notamment le Gabon. Pas encore qualifié non plus, mais les Panthères ont fait un grand pas hier vers les 8e de finale. On va en parler avec Thomas Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro et bonsoir tout le monde.
Sous vos yeux à Yaoundé, les hommes de Patrice Neveu ont réalisé une excellente opération.
Un match nul un partout face au Ghana, un point plus les 3 de la victoire face aux Comores qui font 4. C'est très bien parti, oui, et c'est un peu miraculeux ce scénario. André Ayou avait ouvert le score sur un bijou d'enchaînement, contrôle orienté, frappe lointaine. Et c'est Di Malevina, rentré en cours de match, qui lui a répondu dans une certaine confusion. Juste avant, le ballon avait été sorti par les Ghanéens pour permettre de soigner un joueur à terre. Et ces filous de Gabonais, au lieu de rendre l'appareil, comme ça se fait en général, ont joué rapidement alors que leurs adversaires étaient à 10.
Et du coup, grosse colère des Ghanéens, on l'imagine.
Furax, ils se sont rués, André Ayou en tête vers le banc adverse, tension maximale et pugilat au coup de sifflet final. Une générale, comme on dit en rugby, Benjamin Tété, le Ghanéen, écopera d'ailleurs, la sanction est tombée aujourd'hui, de 3 matchs de suspension. André Ayou, lui, s'est présenté en conférence de presse le regard noir. Je vous propose d'écouter ou de réécouter sa réaction à chaud.
Le fair play du football, c'est que quand tu reviens, tu nous redonnes le ballon, tout simplement. C'est pour ça qu'ils marquent. Sinon, tout le match, ils n'ont pas d'occasion. Tout le monde est debout, on les regarde, on attend, on se dit, ils vont rendre le ballon, ils ne le rendent pas, et but. Mais c'est très petit de leur part. Bon, voilà, c'est comme ça avec les petites équipes.
Alors, évidemment, les Gabonais ont réagi aux déclarations d'André Ayou.
en disant évidemment que pour une petite équipe, ils ne s'en sortaient pas si mal et en rappelant qu'ils étaient en bien meilleure posture que les Ghanéens qui ne sont que troisième du groupe avec un petit point.
Le Gabon bien parti et tout ça sans les stars.
Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina touchés par le Covid avant le début de compétition, négatifs depuis peu. Ils s'étaient entraînés, ils devaient jouer contre le Ghana, sauf que juste avant la rencontre, des résultats d'examen tombent, des complications sont identifiées. Par précaution, Aubameyang, Lemina, mais aussi Axel Meillet ne sont pas autorisés à jouer. On a même pensé que leur CAN pouvait être terminé. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Le mieux pour y voir plus clair, c'était de demander à Patrice Neveu les dernières nouvelles du soir. Nicolas Bambassi est collé, vous allez l'entendre. Le sélectionneur des Panthères attend toujours que ses joueurs puissent passer de nouveaux examens.
Ça ne nous arrange pas, on pensait pouvoir le faire aujourd'hui, c'est pas possible. Demain, c'est pas possible et ce sera lundi. Pendant ce temps-là, ils s'entraînent pas non plus, quoi. C'est très, très dur psychologiquement pour les joueurs. Hier, suite à la mauvaise nouvelle, ils se sont dit que ça devenait tellement compliqué que à quoi bon rester. Donc après avoir échangé et autres, les gars apprennent sur eux, mais psychologiquement, c'est vraiment difficile, quoi.
C'est vraiment difficile et pas de nouvelles avant lundi. C'est pas évident non plus pour préparer le match face au Maroc mardi. Mais allez savoir avec ces Panthères qui nous surprennent, qui affichent une belle solidarité et qui en plus pourraient même passer en cas de défaite face aux Marocains en fonction bien sûr des résultats des autres matchs.
Yoro, Aubameyang, Lemina, touché. On parle éventuellement de conséquences sur le plan cardiaque. C'est très très inquiétant et c'est dommageable évidemment pour l'équipe mais surtout pour eux à titre personnel.
Par contre, ça, je n'y crois pas. Je sais que quand nous sommes atteints de Covid, d'habitude, on vous demande de faire des examens supplémentaires. C'est des scanners de poumons. Il y a souvent de petites lésions sur les poumons à cause de la Covid, mais qui se cicatrisent au bout de 3-4 jours. Donc, je crois sincèrement qu'ils peuvent récupérer les deux jours avant la fin du tournoi s'ils vont en huitième, voire en quart de finale.
Ah ben c'est tout ce qu'on espère pour eux. On suivra le dénouement du groupe C mardi, donc à 19h, temps universel, en simultané sur ces deux matchs, Gabon-Maroc et Ghana. Comore, on se transpose à Bafoussam, maintenant terre d'accueil des équipes du groupe B, suivi de près par Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, comment ça va?
Tout va très très bien, avec un groupe où aucune équipe n'a encore assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Tout est encore possible, donc avant la dernière journée, le Sénégal et la Guinée sont en tête avec 4 points devant le Malawi, 3 points et le Zimbabwe, 0. Avec un vice-champion d'Afrique sénégalais, Eric, à la peine depuis le début de la compétition.
Oui, on s'attendait à voir les Lions survoler cette poule. Eh bien, il n'en est rien, malgré leur série de 12 matchs sans défaite en match officiel. En arrivant au Cameroun, le Sénégal a beaucoup souffert, à l'image de sa victoire inaugurale lundi contre le Zimbabwe, battu 1-0 à la dernière seconde sur un pénalty de Sadio Mané. De la souffrance, de la fébrilité et peu d'étincelles également hier, face à la Guinée, avec une première mi-temps ratée, suivie d'une seconde un petit peu meilleure, mais rien de génial. La raison essentielle de ce départ, plus que la Borion, la connaît. Le Covid qui a sérieusement touché la tanière. Une dizaine de joueurs ont été tour à tour testés positifs ces deux dernières semaines. Les leaders en tête, comme Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ou encore Idrissa Ganagay. Sur les deux matchs, Aliou Cissé a donc dû faire avec les moyens du bord. À l'arrivée, le Sénégal est quand même tout proche de la qualification avant d'affronter le Malawi. Pas de panique, clame du coup son capitaine Sadio Mané, même si les temps sont plutôt difficiles, on écoute.
Nous avons un objectif, c'est d'abord de finir premier. On a un match à jouer contre le Malawi. Pour nous, c'est un match décisif parce que c'est un match qu'il faut gagner, qui ne sera pas du tout facile aussi. Il faut juste se remobiliser, c'est pas la fin du monde, c'est le football. Je me rappelle en 2019, à ce moment, on avait perdu le match et on a été mentalement costaud. Et donc, je pense que par rapport à ça, on a de l'expérience. Donc, nous sommes un groupe, mais bon, dommage, nous confrontons à une période très très difficile. Je pense que nous sommes le seul pays qui a ce gros problème. On a manqué beaucoup beaucoup de joueurs. Même à l'entraînement, c'est difficile. 16 joueurs à l'entraînement, c'est pas suffisant. Donc si tu veux gagner une CAN, il faut un groupe. Et je pense que les joueurs nous manquent, bien sûr, c'est normal. Mais bon, c'est pas l'excuse, on va essayer de faire avec les moyens que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes le Sénégal.
Sadio Mané qui fait référence à la défaite contre l'Algérie en phase de poule de la CAN 2019, qui n'avait pas empêché les Lions de disputer la finale contre ces mêmes Algériens. Puis bonne nouvelle aujourd'hui pour les Lions. Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Balot Touré, Ganagay ont pu s'entraîner. Ils devraient donc pouvoir être alignés mardi contre le Malawi.
Alors, outre les absences liées au Covid, Sadio Mané a avancé d'autres explications après le match pour expliquer ce mauvais départ des Lions dans la CAN.
Oui, et le joueur de Liverpool l'a vraiment martelé. Il trouve injuste et inéquitable que le Sénégal ait dû jouer ces deux matchs-là à 14h, au moment où il fait le plus chaud, et sur une pelouse très sèche qui n'a pas été arrosée. Sadio Mané, aujourd'hui, plutôt taclé par El Hadj Diouf pour l'ancienne gloire de la génération Bruno Metsu, conseiller d'Aliou Cissé durant ce tournoi. Eh bien, les Lions ne doivent pas se chercher d'excuses. El Hadj Diouf.
Aujourd'hui, même si on doit réveiller les joueurs à jouer à 6h du matin, ils doivent être prêts. Pour gagner la coupe, il faut être prêt. Tout ça, pour moi, c'est des faux débats. J'aime tellement le football. Quand je me lève à 4h du matin sans lumière, je suis prêt à faire plaisir. Et ces joueurs-là doivent être dans cette dynamique. Et c'est ça qui est important. Pour gagner, il ne faut pas chercher le ceci ou cela. Pas d'excuses. Pour gagner, il faut être prêt. Parce que gagner, c'est une organisation et une mentalité.
Et la Diouf très en forme hein, le jour de ses 41 ans, lui souhaite bon anniversaire.
Docteur Yoro, c'est grave ce qui se passe avec le Sénégal. Alors on a compris qu'il y avait des allers-retours du fait de la Covid, ce qui n'arrange évidemment pas la formation et la cohésion de l'équipe. Malgré tout, bon, c'est pas un départ canon pour les Lions pour l'instant.
Au fait, on a toujours joué comme ça. L'arbre qui cachait la forêt, c'est qu'on a de grosses individualités qui faisaient la différence à tout moment. Sauf que là, c'est un peu difficile pour eux parce que la majeure partie de l'équipe n'est pas là. Mais sur le fond du jeu, il va falloir repasser. Les résultats sont là pour Aliou Cissé, mais dans le jeu, ça a toujours été ric-rac. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour le Sénégal. Le jeu est décrié de partout. Mais je crois qu'ils ont cette mentalité-là pour pouvoir aller minimum jusqu'en demi-finale.
On verra effectivement ce qui se passera avec les Lions. Eric, moins de tension quand même côté guinéen. Le Sili National, pour sa part, totalement heureux depuis le début du tournoi.
Oui, une victoire un petit peu chanceuse contre le Malawi 1-0, puis ce nul contre le Sénégal. Cela donne 4 points pour la Guinée, quasiment qualifiée, avant d'affronter le Zimbabwe mardi à Yaoundé. Une bonne nouvelle pour cette jeune équipe en pleine reconstruction. Prise en main il y a quelques mois à peine par Kaba Diawara, jusque-là adjoint de Didier Six. Kaba Diawara qui a choisi pour cette CAN de s'épauler de Pascal Feindouno, son ami chargé de conseiller les attaquants du Sili. Un Pascal Feindouno au départ pas forcément emballé par cette proposition.
C'est Kaba qui m'avait appelé au téléphone en me disant parce qu'il vient m'aider. J'ai dit Kaba, j'ai dit pas maintenant. Il me dit mais quand alors? C'est maintenant. J'avais pas ça dans ma tête. Plus tard oui, mais à force qu'il m'appelle, il me motive en même temps et finalement j'ai dit oui. Là je vois que voilà ça se passe bien avec les joueurs. Et encore, ça m'a donné la motivation de continuer avec eux. Et c'est pour ça que je suis là.
Qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux joueurs, aux attaquants?
Bien, mon expérience. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué en attaque, mais je connais quand même un peu. J'ai toujours joué milieu de terrain et de temps en temps attaquant. Donc, je leur donne mon expérience et mon vécu. En plus, c'est les jeunes qui me respectent beaucoup. Je les respecte aussi. Donc, le courant passe.
C'est important que les anciens transmettent aux plus jeunes?
Ah oui, 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 oui. Pour moi, à mon avis, c'est normal. Ça devrait être automatique parce que tu connais le métier et les jeunes joueurs, il faudra être derrière.
Et ça semble bien fonctionner hein, au vu du bon début de CAN du Sili. En tout cas, son sélectionneur est pleinement satisfait de l'apport de son ancien coéquipier en sélection. Écoutez Kaba Diawara.
Pascal, le surnom qu'il a en Guinée, c'est le magicien. Donc voilà, tous ces joueurs-là, ils l'ont vu jouer. Ils nous ont vu jouer, mais lui en particulier, c'était notre joueur star. Donc s'il peut leur donner un peu de magie, il le fera. Et puis il le fait parce qu'il s'entraîne avec eux. Il les prend aussi en fin de séance. Il amène son côté aussi jovial. Donc ça, c'est vraiment dans notre tradition. Et voilà, il est là parce qu'il a de l'expérience et qu'il a du talent. Donc moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Il a un apport que lui-même ne il se rend pas compte en fait. Il a une aura, il a un don. Donc si on peut, après l'avoir utilisé comme joueur, le prendre dans le staff et qu'il diffuse un peu sa bonne humeur, son énergie et son expérience, c'est pour ça qu'il est là.
Pascal Findounou avec la Guinée, El Hadj Diouf avec le Sénégal. On peut constater qu'en Afrique de l'Ouest, la transmission entre générations est importante et cela donne des résultats pour l'instant.
Merci beaucoup Eric Mamouet, on vous retrouvera pour suivre ces deux derniers matchs du groupe B, la troisième journée, Guinée-Zimbabwe à Yaoundé et Sénégal-Malawi. Ce sera chez vous à Bafoussam, Guinée-Zimbabwe à Yaoundé, ce sera avec un autre envoyé spécial. Mardi, on se projette maintenant sur la journée de demain, celle des deux derniers groupes à disputer leur match de la deuxième journée par ordre chronologique. C'est le groupe F qui nous intéresse d'abord, celui de Limbé dans le sud-ouest du Cameroun, où on rejoint Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Christophe, bonsoir Yoro.
Deux rencontres, Tunisie, Mauritanie et Gambie-Mali demain. Deux rencontres qui pourraient permettre aux Maliens de rejoindre à leur tour le rang des qualifiés.
Oui, on ne va pas revenir sur la polémique qui a émaillé cette rencontre. Ça a un peu éclipsé la performance des Maliens qui ont vraiment étouffé les Tunisiens. C'était donc mercredi, une des équipes pour l'instant les plus convaincantes du tournoi. On a vu un milieu de terrain très performant et un gardien de but, Ibrahim Moukoro, déterminant. Il a notamment arrêté un pénalty de Wabi Kazri, lui qui avait déjà gardé son but inviolé pendant toute la durée des éliminatoires du Mondial cet automne. Le Mali est favori face à la Gambie, mais attention à cette équipe qui a remporté son premier match, le premier match de son histoire à la CAN face à la Mauritanie. On écoute Mohamed Magasouba, le sélectionneur malien, qui ne veut sous-estimer personne.
L'équipe du Mali est dans un état d'esprit tel que chaque match est égal à un autre match. Parce que tous les matchs gagnés rapportent 3 points. Nous jouons sans considération d'aucun complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité, et que nous négocions les matchs, match après match, avec autant de sérieux, avec beaucoup de dévouement. Le collectif prime surtout notre vœu le plus ardent et que cette génération puisse aussi faire son histoire. Et qu'elle ne soit pas l'histoire malheureuse, mais plutôt l'histoire heureuse.
Mohamed Kassouba au micro de Joël Waden. Attention quand même à cette Gambie, entraînée depuis plusieurs années déjà par Tom Saintit, le sélectionneur belge des Scorpions, un baroudeur qu'Hugo Moissonnier a rencontré cette semaine lors d'un entraînement de la sélection.
And move around, come on, and talk, coach your ball, very important to coach your ball.
Pour moi, un bon entraîneur doit être tout le temps là, il ne dorme pas, et j'aime le football et j'aime la passion et j'aime ça tout le temps.
Carrure imposante, ventre rond, front dégarni, cheveux longs. Le Belge Tom Saintit est un coach qui a la frite, un entraîneur toujours à fond derrière ses joueurs durant leurs séances, de l'intensité, de la rigueur, mais aussi du jeu et du plaisir.
Il y a toujours le ballon, en fait, j'ai l'impression, dans vos exercices.
Oui. Ce sont des joueurs de football, ils doivent jouer football. Tu peux courir beaucoup, mais ce n'est pas le football ici.
OK, guys, move! Second ball, move, talk to each other.
Et les Scorpions, sur lesquels ils veillent depuis plusieurs années maintenant, sont réceptifs.
Pour prendre des décisions, il faut de la personnalité et du caractère. Mais il est aussi très ouvert. Si tu as des problèmes, tu peux lui en parler.
Ablaye Diallo, premier buteur de la Gambie dans une CAN. Il évolue sous les ordres d'une autre tornade en club, à Metz, en Ligue 1, Frédéric Antonetti.
Antonetti est différent.
Antonetti est différent, il est plus agressif, Tom est plus calme. Antonetti est tellement agressif. Nous travaillons ensemble depuis si longtemps, notre relation n'est plus celle d'un coach avec ses joueurs, nous sommes une famille.
Pas Modou Djagne, le capitaine, le fils aîné. En quelque sorte.
Yes, on peut dire ça comme ça.
Thank you very much. Good luck.
De son côté, Tom Saintit serait le fils adoptif de la Gambie, selon ce supporter.
Tom a son nom dans les livres d'histoire maintenant. Il est le premier entraîneur à nous avoir qualifiés pour une CAN et le premier à nous avoir fait gagner un match dans ce tournoi. C'est une figure désormais en Gambie. Quand tu entres dans l'histoire, tu es forcément très important.
La Gambie, c'est la dernière étape en date d'un parcours atypique. Saintit, 48 ans, entraîne depuis longtemps. Surtout, il entraîne partout, en Afrique, en Asie et même sur les îles Féroé.
Oui, je ne suis pas un globe-trotter, je suis un entraîneur professionnel qui peut parler 4 langages perfects et beaucoup d'autres langages et je peux adapter dans beaucoup de pays. Dans chaque pays du monde, il joue au football. C'est l'arrogance des peuples du France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Je pense que c'est seulement lui qui joue au football. J'ai commencé comme entraîneur avec l'âge de 24. J'ai accepté aussi des jobs comme Bangladesh pour 3 mois, Malawi pour 3 mois, Éthiopie pour 5 mois. Tu peux étudier dans chaque pays comme entraîneur, comme humain.
La Gambie, c'est une étape particulière. Est-ce que là, vous avez vécu peut-être, avec la première victoire pour le premier match de Coupe d'Afrique, la plus belle expérience de cette carrière unique?
Non, j'ai Gambie, c'est fantastique. Hein, c'est... Je suis à la maison au Gambie, c'est mon pays, je suis gambien. Mais j'ai beaucoup de bonnes expériences. Après notre victoire, j'ai reçu des messages et des téléphones du ancien président de la fédération nigériane, de l'ancien président du Togo fédération, de l'ancien président de football du Namibie. Tu peux développer beaucoup, de gagner de bons résultats, aussi sans être qualifié ou sans gagner le premier match au CAN.
Une première victoire dans une première CAN qui pourrait aboutir à une qualification évidemment historique pour les huitièmes de finale. Un autre billet validé, une autre barrière franchie dans la trajectoire hors norme de Tom Saintfit. Hugo Moissonnier, Bertrand Éclair, Limbé, RFI.
Cédric, on repart avec vous pour évoquer la suite du groupe et l'autre match qui va opposer la Tunisie et la Mauritanie. Cédric, est-ce que vous êtes avec nous? Il n'est plus avec nous. On va faire un petit tour avec Euro. Tom Saintfit, pour la Gambie, un bon entraîneur, un entraîneur qui a permis de faire progresser la Gambie, les Scorpions.
Les Scorpions progressent d'année en année. C'est une équipe qui a toujours été sous l'aile protectrice du Sénégal. À chaque fois qu'il y avait des joueurs binationaux qui n'avaient souvent pas la place dans l'équipe du Sénégal, ils allaient jouer pour cette équipe de la Gambie. On a vu Abdoulaye Diallo, hein, formé à Génération Foot. Il y a 4-5 ans, il y avait une doublette avec Nyan du FC Metz. Ils étaient en Ligue 1 sénégalaise. Une belle équipe qui progresse, qui a gagné son premier match. Ils vont espérer passer le premier tour en faisant un bon résultat demain. Et je sais que tout le peuple sénégalais sera derrière eux.
On va retourner voir Cédric Delivera qui est de retour avec nous. Cédric, on allait parler du match entre la Tunisie et la Mauritanie, l'autre match du groupe demain.
Oui, deux équipes revanchards, notamment la Tunisie, Christophe, qui doit digérer cette fin de match confuse, la fameuse hein, face au Mali, ce match qui n'est pas allé à son terme, on le rappelle, à cause de la décision de siffler prématurément cette fin de match de l'arbitre Yanni Sikazoué. Mais les Tunisiens partent favoris, eux qui restent sur une demi-finale et deux quarts de finale lors des éditions précédentes. On a l'habitude de les voir parmi les dernières équipes en lice. Ce serait donc très surprenant de les voir à nouveau shooter demain à Limbé. Malgré sa défaite face au Mali, la Tunisie fait partie des favoris.
La Mauritanie, elle aussi, voudra se relancer, elle qui a perdu son premier match.
Oui, elle a perdu le match qu'il ne fallait pas, donc face à l'autre petit pousset du groupe, la Gambie, les Mourabitounes, qui n'ont toujours pas gagné un match de CAN alors que c'est leur deuxième participation au tournoi. Ils n'ont plus le choix s'ils veulent poursuivre leur route. Le sélectionneur Didier Gomez d'Arosa.
Dos au mur, bien évidemment. Hein. On est aussi revanchard, très très revanchard dans nos têtes. On a envie de continuer la compétition. Il nous reste 2 matchs à jouer, donc de gros espoirs. C'est vrai qu'on aurait fait un premier pas avec un résultat positif contre la Gambie. Ben, il faut faire ce premier pas demain.
Le sélectionneur de la Mauritanie, Didier Darroza, qui connaît bien cette équipe de Tunisie. Les deux équipes se connaissent par cœur. Elles étaient dans le même groupe d'éliminatoire du Mondial. Elles se sont même affrontées lors de la Coupe arabe au Qatar le mois dernier. C'était aussi le cas lors de la CAN en 2019. À l'époque, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 0-0.
Merci beaucoup Cédric. Demain, on vous retrouve donc sur l'antenne à partir de 13h, temps universel, avec Hugo Moissonnier pour Gambie, Mali, Tunisie, Mauritanie. Ce sera à partir de 16h TU. Ce dernier match vous sera proposé en duplex sur RFI avec la rencontre du groupe E, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, transition toute trouvée pour prendre la route de Douala. Sa chaleur et son humidité où nous attend Frédéric Chuteau. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Christophe.
Les matchs de la deuxième journée. Donc demain, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, 16h TU et Algérie, Guinée équatoriale, 19h TU. On va commencer par les Fennecs algériens parce que la situation est déjà un petit peu critique. Ils sont attendus au tournant, les champions d'Afrique.
Oui, alors il n'y a pas encore péril en la demeure, mais c'est vrai que
les champions d'Afrique doivent rectifier le tir après une entrée en matière des plus poussives. L'Algérie, mardi, a été tenue en échec par la Sierra Leone, 0-0. Il est vrai que le match se disputait à 14h. On a entendu tout à l'heure Sadio Mané à Bafoussam côté Sénégal pousser un petit coup de gueule. Cette chaleur, ces conditions, bien les Algériens l'ont pris eux aussi de pleine face lors de ce premier match. Visiblement, ils n'y étaient pas préparés. Et après 10 bonnes premières minutes, on avait vu Riyad Mahrez, Youssef Belaïli donner le tempo. Eh bien, ils n'ont pas réussi à conserver ce rythme. Ils se sont retrouvés à court de carburant, cuit à l'étouffer, les jambes coupées. Mais ce n'est pas la seule raison, Christophe. En face, il y avait un gardien sierra-léonais, Mohamed Camara, qui a sorti un match énorme. Et puis peut-être aussi que les Algériens, même s'ils vous diront le contraire, peut-être qu'ils ont pris d'un peu haut la Sierra Leone. Réaction donc, oui, attendue demain face à la Guinée équatoriale.
Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs, qu'est-ce qu'il en dit de ce début de composition, de compétition de son équipe?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de parler, Djamel Belmadi. Il est resté presque une heure en conférence de presse ce matin à Japoma, au stade, sous l'angle « on ne se cherche pas des excuses, mais la chaleur, mais la pelouse, mais l'humidité, etc. etc. » Et puis, à demi-mot, il a reconnu bien que la série d'invincibilité des Fennecs, 35 matchs sans défaite, on en est là depuis l'automne 2018, que cette série, elle pesait beaucoup. Il y avait ce statut à assumer. Djamel Belmadi.
L'objectif, il est connu. On a le titre de champion d'Afrique sur les épaules. On l'assume. Donc l'idée, c'était de gagner ce premier match. Et ce match nul, qui est un, je l'ai dit après le match, qui est un semi-échec pour nous. C'est devenu un semi-échec. C'est devenu même quasiment un échec pour nous quand on fait match nul. C'est une bonne chose. Fut un temps, c'était pas le cas. Mais bon, on a atteint tel niveau que évidemment, faire un match nul, ça devient un échec. On a le même objectif pour ce deuxième match-là. C'est la pression du football, du compétiteur. Donc, c'est une pression positive pour nous, et tant mieux qu'elle soit là.
Voilà, l'Algérie qui a tout intérêt à gagner son match quand même face à la Guinée équatoriale. Un deuxième match nul pourrait compromettre la qualification pour les huitièmes de finale, quand on sait que lors de la dernière journée, Christophe, les Fennecs affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire.
Yoro, ils ont vraiment la pression tant que ça, les Algériens là? On les sent fébriles?
C'est normal, c'est une équipe championne d'Afrique. Tout le monde attend de voir une belle équipe des Fennecs dans ce tournoi. Sauf que la chaleur, il y en avait aussi en Égypte. Là, la seule différence, c'est les pelouses. Je crois que c'est des équipes maghrébines qui ont l'habitude de jouer sous de bonnes pelouses et d'avoir la possession de la balle. Alors que là, c'est très difficile de produire du jeu. Et quand on n'arrive pas à produire le jeu que l'on veut, on s'énerve. Et avec la chaleur, ça devient beaucoup plus compliqué.
Frédéric, la Côte d'Ivoire maintenant, bon, elle est en tête du groupe. 3 points après son succès face aux Équato-Guinéens. Confirmation attendue face aux Sierra-Léonais.
Oui, les Ivoiriens peuvent se mettre à l'abri, assurer leur qualification pour les huitièmes de finale dès demain. Alors, tout n'a pas été parfait mercredi contre la Guinée équatoriale, mais les éléphants, ben, ils ont eu le mérite de marquer ce but que les Algériens, eux, n'ont pas réussi à marquer. La frappe de Max Alain Gradel dès la sixième minute, et même si ça a été un peu plus compliqué, la suite, ils ont ces 3 points, confirmation attendue demain, avec en plus face à la Sierra Leone, le retour du capitaine Serge Aurier, qui était suspendu pour le premier match. Écoutez-le, il nous parle de son rôle dans le groupe, à la charnière des générations, Serge Aurier.
En tant que capitaine de cette équipe-là, c'est plus facile pour moi de m'exprimer. Il y a des leaders comme Max Gradel, comme Seredje, qui ont plus d'emprise sur le groupe. Donc voilà, on essaie de se partager les tâches. Je pense que aujourd'hui, on a un groupe qui essaie d'avancer ensemble. Puis après, tous les conseils sont les bienvenus. Donc voilà, on a une équipe aussi avec beaucoup de jeunes qui, pour certains, pour une dizaine, c'est leur première CAN. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de rappels à faire. En venant à la CAN, c'est déjà une grosse pression de reprendre son pays. Donc voilà, tout le monde est conscient de ça. La motivation, elle est automatique.
Voilà, Serge Aurier, qu'on aurait donc voir demain à Japoma, à Douala, sur le terrain, face à la Sierra Leone.
Frédéric, on va rester en quelque sorte avec vous, parce que vous êtes parti cette semaine sur les traces de Samuel Eto'o, l'ancien joueur du Barça et de l'Inter, l'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, devenu président de la fédération. Il a 40 ans désormais, et il a été élu il y a un mois à la tête de la FECAFOOT. Il est natif de Yaoundé, il a grandi à Douala, dans le quartier Nioubel, où ses parents se sont connus. Il est arrivé à l'âge de 7 ans, quand sa famille est revenue y vivre. Vous êtes allé sur place, sur les traces de Samuel Eto'o.
Voilà ses amis d'en face. Ah. Voilà eux.
Bonjour.
Voilà, voilà, c'est David en face.
Bonjour, monsieur.
Voilà.
J'ai grandi avec Samuel, et c'est mon petit frère.
C'est donc là, dans cette rue de Douala, Babylone, disent les habitants, que le gamin Samuel Eto'o, fils, passait son temps à jouer au foot quand il n'était pas à l'école. On est à la fin des années 80. Le Cameroun vient de remporter deux Coupes d'Afrique, 84 et 88, et s'apprête à briller au Mondial de 1990. Les stars camerounaises de l'époque s'appellent Roger Milla, François Omambik. Le jeune Eto'o, lui, tape dans un ballon en plastique. Les anciens du quartier se souviennent.
Tout petit, il était doué.
Dans le ventre de sa maman?
Oui, parce que Samuel, à l'époque, on jouait ici. Il n'y avait pas la route ici. À l'âge de 8 ans, il bagarrait toujours.
Il bagarrait, pourquoi? Il voulait gagner tout le temps?
Oui, oui, il voulait jouer seulement.
Un caractère bien trempé, les grands frères de Newbell ont vite compris que Samuel Eto'o avait un don inouï pour le foot. Régine Gimbous, maman du quartier aujourd'hui, le connaît bien également. Elle n'a pas oublié, elle non plus, les prouesses, la détermination du petit.
C'est un gars qui il est né en aimant le football. À l'époque, il n'y avait pas de goudron aussi. Donc les enfants jouaient dans la poussière et tout ça. Mais ses parents ne voulaient pas qu'il joue. Parce qu'au départ, c'était que quand tu joues, c'est que tu es un homme perdu. Son premier club là, en Espagne, au bord de la mer, Mallorca. Il est venu au quartier, tous ses amis d'enfance, tout ça. Tout le monde avait le droit d'aller découvrir l'Europe.
Ah, il les a emmenés, il leur a payé...
9 personnes au départ.
Les copains d'enfance, il les a fait venir.
Il y a 9, il a payé.
Il revient souvent, vous
tout
vous
le temps, tout le temps, oui. Il revient tout le temps.
Bien sûr, tout n'a pas été simple pour Samuel Eto'o, fils, avant en Majorque, puis les titres à l'appel, les Ligues des Champions à Barcelone et à l'Inter de Milan. Les premiers essais de l'adolescent en France, dans différents clubs, n'avaient rien donné. Il a dû revenir au pays avant de prendre son véritable envol. Il est passé par la Kadji Sport Academy de Douala. C'est là qu'il a croisé le directeur du centre de formation, Michel Kaham.
Oh, Samuel, même tout jeune, avait déjà un caractère, un mental de gagneur. C'est un jeune qui ne baissait jamais les yeux, qui vous regardait toujours droit dans les yeux et qui savait ce qu'il voulait. Donc, le voir devenir aujourd'hui à la tête de la fédération, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je pense qu'il est bâti pour cela. Son caractère, son état, ses rêves en football, c'était de faire, de rendre le footballeur heureux. Et je pense que le voir à la tête de la fédération, pour moi, n'est qu'une logique dans la suite de son rêve qu'il a eu en tant que meneur d'hommes.
Président de la FECA Foot, de la Fédération Camerounaise de Foot, c'est le nouveau costume de Samuel Eto'o. Le 11 décembre dernier, à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, après des semaines de campagne à arpenter tout le pays pour convaincre les délégués qui allaient voter, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a raflé la mise. L'un des moments les plus fiers de ma vie, a-t-il dit. Donner un nouvel élan au foot camerounais, au club, au championnat. Samuel Eto'o, âgé de 40 ans, a une envie, une énergie folle. Il a derrière lui toute la jeunesse du pays.
Samuel Eto'o, d'abord, c'est une référence en matière de travail, pas seulement en matière de sport. Poursuivre ses rêves, en tout cas. Si aujourd'hui, Samuel Eto'o, au bout de ses 40 ans, qui a réussi à prendre les rênes de la FECA Foot, qui dit évolution, dit changement, il ne faut pas rester tout le temps statique.
Le Cameroun en a besoin, ça.
Le Cameroun en a besoin. On le suivra juste. Et jusqu'à présent, il montre de bons arguments pour qu'on lui suive.
Depuis le début de la CAN dans la rue, pendant les matchs du Cameroun, dans les fan zones, quand son visage apparaît à l'écran, les jeunes s'enflamment. Ils s'échangent les vidéos, les photos de Samuel Eto'o dans le vestiaire avec les joueurs. Ils voient en lui la promesse d'un avenir meilleur, un avenir politique peut-être pour Samuel Eto'o. Nous voilà revenus à Newbell, Babylone, Annie et son bébé dans les bras.
Nous l'aimons bien, très très bien. Et c'est un rêve pour tout le monde d'avoir un Eto'o dans la famille. Nous avons vraiment besoin qu'il fasse vraiment beaucoup de choses dans le pays, beaucoup. Nous souhaitons même qu'il fasse la politique et qu'il devienne même président pour nous. Parce qu'il est jeune, il nous attire. Que nous aussi, nous devons aussi avancer et non reculer derrière. C'est ça, Papa Eto'o.
Avancer et non reculer, ça pourrait être la devise de Papa Eto'o. Frédéric Suto, Fabien Essiane, Steven Elsley, Douala, RFI.
Voilà, reportage donc de Frédéric Suteau. Mille excuses à Philippe Auclair. On retrouvera demain pour parler de la Première Ligue. Bon, merci beaucoup également, Yoro Mangara. On vous retrouve demain pour parler de la suite de cette CAN. Mondial Sport, c'est terminé dans un instant, 24 ans en France.